Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'Info Club Sandwich du mardi 3 juin 2025, votre quotidienne d'actualité locale et associative. C'est Malo, vous êtes bien sur Radio Campus Amiens 87.7 FM et DAB+, et vous pouvez aussi nous retrouver sur radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, je suis avec Rémi à la technique. Salut Rémi.
Salut Malo.
Comment ça va?
Ça va super, merci de demander, et toi?
Bah ça va super, très heureux d'être à l'animation aujourd'hui, et sur le plateau, je suis avec Thomas. Salut Thomas.
Salut Malo.
Comment tu vas? Bien?
Bah écoute, ça boum.
Aujourd'hui, pas de fête. Hier, c'était la fête des camions, des camionnettes Volkswagen.
Ah, j'ai regardé les Peugeot, les Clio, mais apparemment, pour tout ce qui m'autorisait, on va se contenter d'hier.
C'est fini?
C'est fini.
Bon, et de quoi tu vas nous parler tout à l'heure dans tes actualités?
Alors, j'ai une exposition culture urbaine qui va fermer ses portes, donc il faudra absolument y aller. Un atelier restitution qui parle d'écriture à la maison Jules Verne. Et toujours à la maison Jules Verne, on aura une petite visite particulière. Je vous en dirai plus tout à l'heure.
Très bien, on va écouter ça dans quelques instants. Mais avant, Colline a interrogé Odile Masquelier, qui est la coordinatrice de la Nuit du Handicap à Amiens.
Je suis en compagnie d'Odile Masquelier, vous êtes coordinatrice de la Nuit du Handicap à Amiens, bonjour.
Bonjour.
Et Hélène Bouchard qui participera à la Nuit du Handicap, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste l'événement la Nuit du Handicap et quel est le but derrière cet événement?
Alors la Nuit du Handicap, c'est un événement national qui se déploie localement dans une quarantaine de villes en France. La Nuit du Handicap a pour objectif de permettre la rencontre entre les personnes en situation de handicap et les passants, le public. C'est mettre en valeur les talents des personnes en situation de handicap, c'est briser les clichés et puis surtout permettre la rencontre dans un temps de fête.
Et ça fait combien de temps que l'événement existe? Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est mis en place?
La Nuit du Handicap a été créée en 2018 à l'initiative d'une association qui voulait fêter les 50 ans de son journal Ombre et Lumière. Et ils se sont dit que ce serait bien de mettre en valeur donc les personnes en situation de handicap et de créer un événement qui permette de faire la fête et de se rencontrer. Et donc ça a eu lieu en 2018, ça devait avoir lieu que pour cet anniversaire et finalement tout le monde a été enchanté par cette première édition et du coup il y a eu des nouvelles éditions et depuis 2018 et ben ça continue. Donc sur Amiens on était là la première année en 2018 et on poursuit encore parce qu'on trouve que ça vaut le coup.
J'ai cru comprendre que cet événement a été créé sur le modèle de la fête de la musique. En quoi il y ressemble?
Alors, le modèle, on peut dire un peu comme la fête de la musique, parce que c'est différentes associations qui viennent, qui tiennent un atelier pour une animation à proposer. Et on y passe, on peut passer à cette fête 5 minutes ou 5 heures. Chacun, c'est les passants qui viennent au milieu de la fête, voilà.
Comment un événement comme ça se met en place et s'organise? Comment on décide de quelles activités on va faire, quels ateliers, etc.?
Alors la première chose, c'est essayer de regrouper des personnes motivées pour faire la fête avec des personnes en situation de handicap. Donc on fait appel à des associations. Il y a les associations comme la Croix-Rouge, la FACIC, des associations de foyers de vie, des associations de sport, de handisport, des associations d'auxiliaires de vie, enfin voilà, des bénévoles. On réunit des personnes qui ont envie de faire quelque chose autour du handicap. Et finalement, à partir de là, chacun propose en fonction de ses talents. C'est vraiment valoriser les talents des personnes. On propose une activité. L'idée, c'est pas un forum des associations. L'idée n'est pas de présenter son association. Beaucoup d'associations, d'ailleurs, proposent une activité en association avec une autre. L'idée, c'est de faire une activité ensemble. Donc, les participants viennent, les passants qui viennent vont faire une activité avec les personnes en situation de handicap, donc ça peut être des jeux, du sport, de la danse, de la musique, du bricolage, voilà, c'est faire ensemble, être ensemble et faire ensemble.
J'avais compris aussi qu'il y aurait plusieurs ateliers mais aussi des animations sur scène. J'avais vu que c'était une centaine de personnes en situation de handicap qui exposeront leurs talents dans différents domaines. Pourquoi avoir décidé de les faire jouer sur scène?
Alors l'animation sur scène est vraiment pour mettre de l'ambiance. Donc c'est pas les personnes en situation de handicap, c'est tout le monde. On peut aller danser ensemble, on peut... voilà, il y a des animations qui créent l'esprit de fête, mais on a aussi un atelier de percussion où des personnes en situation de handicap viennent jouer de la percussion, mais on est tous autour et on danse ensemble. Enfin, voilà, c'est l'animation et sur scène est là pour faire la fête, pour créer l'ambiance.
Et comment tout ça s'organise, les répétitions, etc. Parce que c'est quand même énormément de monde.
Chaque association prépare son atelier.
On fait des réunions trois fois dans la même année pour préparer la nuit handicap. Et on dit ce qu'on veut faire comme stand.
Hélène aime beaucoup faire des mandalas. Toute l'année, elle fait des mandalas chez elle. Et donc, on les a mis en valeur en les collant sur du papier pour avoir quelque chose de joli. Et elle va proposer aux passants de demander comment ils vivent la fête, comment ils vivent le handicap. Ce sera écrit derrière les mandalas qui seront accrochés à un arbre. Donc c'est un travail de longue haleine, hein, parce que tu commences de bonne heure. Tu
oui.
fais ça pour peindre,
oui.
pour dessiner tous tes mandalas.
C'est ça, avec des feutres, c'est des rosaces.
Et une autre année, tu avais tenu un stand de peinture, voilà, sur une grande toile, une grande fresque de dessiner.
Oui, c'est vrai. C'était un herbe. Chacun devait peindre avec une couleur différente. On avait d'abord préparé l'herbe avec du crayon bois avec Odile. Enfin, les passants passent avec de la peinture chaque feuille, chaque couleur.
Chaque personne pouvait peindre une feuille de l'arbre
oui,
de couleurs différentes. On montrait ainsi que la diversité est une richesse.
En dehors des mandalas et des peintures, par exemple, il y avait quoi d'autre comme atelier ?
Il y a le stand des chiens aussi.
En quoi ça consiste, le stand des chiens ?
Il y a une association Andy Chien qui vient et qui nous permet de caresser le chien. C'est des chiens qui sont habitués à être auprès des personnes en situation de handicap.
Il y a même des chorales qui viennent chanter. Il y a 2 ans, il y a eu la chorale Crescendo qui est venue chanter à la nuit handicap.
Donc il y a des ateliers sportifs, hein, des jeux d'adresse, des parcours fauteuil, parcours Joëlette. Il y a de la boccia, qui est un sport qu'on a vu aux Jeux paralympiques, un peu comme de la pétanque avec des balles. Il y a eu du tir, il y a des ateliers de détente, de réflexologie. Il y a des ateliers de jeux, de quiz, de jeux de construction, de... Voilà, il y a des choses très variées. Chacun peut s'y retrouver.
Depuis ces 6 dernières années, est-ce que, enfin 8 plutôt, comme vous m'aviez dit en off, est-ce que vous avez pu voir une évolution positive dans la société et le regard sur les handicaps et en quoi ?
La grande richesse de la nuit du handicap, c'est que les personnes, elles, avec en situation de handicap, elles ont toute leur place en ville et on les voit. La nuit du handicap aura lieu au centre-ville devant la Maison de la Culture. Donc, avoir sa place sur l'espace public, c'est quelque chose de formidable. Mais bien sûr, il n'y a pas que la nuit du handicap qui favorise ça. Le regard change. On a vu les Jeux paralympiques qui avaient vraiment fait évoluer le regard et se rendre compte qu'il y a des personnes en situation de handicap partout autour de nous. Il y a les handicaps visibles et il y a aussi tous les handicaps invisibles. Donc, si on arrive à vivre ensemble, à occuper l'espace public ensemble et à faire des activités ensemble, on gagne en humanité.
Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez autant de monde réuni pour cette cause ?
Moi, j'aime bien. Ça me permet d'être avec les autres aussi. Il y a une bonne ambiance. Il y a même de la danse. Moi, je suis contente de participer à la nuit handicap chaque année et puis être avec les autres aussi.
Alors, Hélène est très fidèle pour tenir le stand qu'elle anime. Donc, tous les ans, voilà, elle anime un stand un peu différent à chaque fois, mais c'est important. Et puis, tu communiques aussi beaucoup pour demander aux gens de venir ce jour-là. Donc,
oui, j'envoie des mails, je téléphone pour les inviter. Je mets des affiches aussi.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que la nuit du handicap d'Amiens se déroulera le samedi 14 juin 2025 de 16h à 21h devant la Maison de la Culture sur la place Léon Gauthier.
On compte sur vous, venez nombreux.
Vous êtes bien sur Radio Campus Amiens, l'info Club Sandwich du mardi 3 juin 2025 et vous venez d'écouter Numbers, I Can Only Count to Four de Psychostick. Et pour cette deuxième partie d'émission, j'avais envie de vous parler de cinéma. Et oui, que c'est étonnant. Depuis mercredi dernier, le nouveau film de Wes Anderson, The Phoenician Scheme, est disponible au cinéma. Encore une fois, le casting est doré. Benicio del Toro, Willem Dafoe, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, etc. etc. Mais si on ne garde que les acteurs et actrices n'ayant jamais joué pour le réalisateur, eh ben il reste plus grand monde. On a la jeune Mia Shrippleton, qui a l'un des deux rôles principaux, Michael Cera, Riz Ahmed et la française Charlotte Gainsbourg. Ces récurrences dans les castings sont un des symboles forts du cinéma de Wes Anderson, évidemment après l'esthétique fantaisiste et complètement symétrique qui permet de différencier le cinéaste parmi mille autres. Depuis Bottle Rocket en 1996, Wes Anderson c'est 12 films. Dès le début, on remarque que le réalisateur a ses chouchous qu'il réutilise. Par exemple, les trois frères Wilson, Andrew, Owen et Luke, joue dans ses trois premiers films, Bottle Rocket, Rushmore et La Famille Tenenbaum. Pour ce qui est d'Owen, avec qui la collaboration a été plus que fructueuse, il en est à 8 films d'Anderson. Mais ce n'est pas le record. Bill Murray, avec sa nouvelle présence dans The Phoenician Scheme, est à 10 collaborations avec le réalisateur. C'est autant que le nombre de fois où Scorsese a choisi De Niro, sauf que Scorsese, c'est pas 12 films en tout, mais 26. En pêle-mêle, on peut en citer plein. Jason Schwartzman 7 fois, Willem Dafoe 6 fois, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody ou encore Mathieu Amalric 5 fois. Les collaborations multiples entre acteurs et réalisateurs sont monnaie courante, notamment Hollywood, mais autant de fois avec autant d'interprètes, c'est plus rare. Comme tous ceux qui ont travaillé avec Wes Anderson le disent, une réelle relation de confiance entre réalisateurs et acteurs se crée sur les plateaux de tournage, mais aussi en dehors. Reprenons l'exemple de Bill Murray. En 1997, il accepte de tourner dans le deuxième long-métrage de Wes Anderson, Rushmore, pour un cachet de seulement $9,000. Il croit au projet, et dès lors, une amitié naît. D'un côté, Bill est fasciné par la patience de Wes, et de l'autre, Wes est apaisé et épaulé par la présence de Bill. Finalement, le réalisateur appelle l'acteur de Lost in Translation pour tous ses films, même pour Asteroid City où l'absence de Bill Murray était justifiée par son état de santé post-Covid. Et l'acteur est devenu le parrain de la fille de Wes et l'a même baptisé. C'est dire. Le plus troublant, c'est que Bill est connu pour être une vraie plaie sur les plateaux de tournage. Il est connu comme étant quelqu'un qui fait globalement ce qu'il a envie et surtout qui n'hésite pas à user de comportements inappropriés pour faire peur et humilier ses co-stars, comme en témoignent Seth Green, Greena Davis ou encore Lucy Liu. Dans les noms que j'ai énumérés tout à l'heure, il y a aussi Edward Norton qui est aussi connu pour être insoutenable sur les tournages et vouloir tout contrôler. Wes Anderson aurait donc un pouvoir avec ce genre d'acteurs et actrices, ou du moins il les supporte. Dans tous les cas, on peut aujourd'hui se questionner sur la pertinence de ces choix d'interprètes quasi identiques d'un film à l'autre. D'un côté, Wes Anderson a toujours su gérer des castings éclectiques. Certains de ses acteurs et actrices fétiches ne sont pas forcément des vedettes de premier plan. Jason Schwartzman, Owen Wilson ou Rupert Friend poursuivent de belles carrières mais sont rarement les têtes d'affiche. Eh bien, il sait parfaitement les diriger, que ce soit avec des énormes stars comme Bruce Willis, Tom Hanks ou Gene Hackman, qu'avec des débutants inconnus au bataillon comme Tony Revolori dans The Grand Budapest Hotel ou Cara Hayward dans Moonrise Kingdom. Anderson écrit ses rôles en pensant à des acteurs bien précis. L'expérience et la reconnaissance qu'il a acquis à Hollywood lui permettent de transformer ses rêves de casting en réalité. De l'autre côté, est-ce que les gens en auraient pas marre? Lorsqu'on écoute les réactions à chaud des spectateurs après la projection de The Phoenician Scheme à Cannes, on observe une certaine tendance à la critique du fond des films de Wes Anderson, du moins de ce qu'ils évoquent. Certaines personnes ont l'impression de voir le même film tous les 3 ans, et donc à chaque fois avec les mêmes têtes. Et honnêtement, je suis d'avis moi aussi pour dire que les films du réalisateur, expatrié en France, ne sont devenus que de simples attractions visuelles, totalement uniques c'est vrai, mais sans but profond. Ces histoires auparavant narrées comme des contes semblent désormais plutôt fades. Il n'y a plus maintenant l'effet de surprise du style Wes Anderson. On pourrait même dire que les films sont devenus des caricatures d'eux-mêmes. Et dans cette même idée donc, moi aussi j'aimerais voir un jour un renouvellement des noms lorsque je vois les publications Insta des annonces de casting de Wes Anderson. Mais peu importe ce que l'on pense, en bientôt 30 ans de carrière, le réalisateur a réussi à s'attirer les faveurs de très grands noms du cinéma, comme le regretté Gene Hackman, Harvey Keitel ou encore Tom Hanks, sans jamais oublier les acteurs émergents, les novices. Et rien que pour ça, c'est beau. Et maintenant, Thomas, je te laisse la parole pour que tu puisses nous présenter les actualités du jour.
Absolument, et pour ouvrir ces fameuses actualités, rien de mieux qu'un événement gratuit. Et en effet, l'exposition Culture Urbaine va fermer ses portes ce mercredi 4 juin. Donc que ce soit pour la découvrir ou la redécouvrir, cette exposition si particulière mettant en avant le slam, le hip-hop ou encore les musiques urbaines actuelles, c'est maintenant ou jamais. Pour profiter de cet événement avant qu'il ne parte, il vous faudra vous rendre à la bibliothèque Le Petit Prince à Amiens. Un atelier ensuite pour conclure les différents ateliers d'écriture qui ont lieu en 2024 et en 2025 est organisé le jeudi 5 juin à la Maison Jules Verne, une soirée restitution où les participants des différents ateliers vous présenteront le fruit de leur travail. Attention, il est conseillé de vous réserver par mail ou par téléphone dans la limite des places disponibles. Toujours à la Maison Jules Verne, mais le vendredi 6 juin cette fois, a lieu le festival Résonance, organisé par le réseau régional des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France, vous attend une interrogation sur la place des sciences dans le monde de la littérature. Deux univers qui semblent être l'antithèse l'un de l'autre, mais qui en vérité seraient peut-être plus proches qu'on tente à y croire. Les tarifs d'entrée sont disponibles sur le site internet du festival.
Merci beaucoup Thomas. C'est la fin de l'Info Club Sandwich du mardi 3 juin 2025. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve demain et en attendant, on se laisse avec Ain't No Grave de Johnny Cash. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my load. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.